L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Maud, nous allons aborder un thème important dans la mission de l'Église, mission des hommes, mission des couples, dans l'annonce de l'Évangile. Alors, quelque chose qui peut apparaître un peu technique, mais qui pourtant est fondamental, c'est la distinction dans la mission entre le kérigme, l'annonce du cœur de la foi que Jésus est sauveur et libérateur, et tout le domaine de la catéchèse. Et pour cela, nous allons être un des textes fondateurs qui va très bien expliquer. C'est le texte de la Pentecôte, en tout cas ce qui suit directement l'expérience de la Pentecôte dans les Actes au chapitre 2.
Ce qu'on appelle la première proclamation de Pierre. C'est alors que Pierre s'avança et prit la parole. « Homme d'Israël, écoutez bien ces paroles. Dieu avait choisi au milieu de vous un homme, Jésus de Nazareth. Dieu lui avait donné de faire des miracles, des choses étonnantes, des signes, vous le savez tous. Cependant, vous l'avez livré, vous l'avez fait supplicier et mourir par la main des païens. Cela répondait au projet de Dieu qui avait prévu cette offrande. Mais Dieu l'a délivré des douleurs de la mort et l'a ressuscité. Le royaume des morts ne pouvait pas le garder. Nous en sommes tous témoins. Une fois élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le don qu'il promettait, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et il l'a répandu. C'est ce que vous venez de voir et d'entendre. »
Et il est dit, dans la suite du texte, « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent aux apôtres, « Que devons-nous faire ?» Et là, Pierre dit, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Il les adjurait, il les exhortait. Et donc, eux, accueillant la parole, ils se firent baptiser. Et alors il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
Il y aurait énormément de choses à dire sur ces textes, mais c'est tout ce mécanisme de la découverte de la foi qui en fait nous est décrit à travers cette première prédication de Pierre.
Alors c'est ce que nous allons voir dans cette première partie, cette différence. Et puis à la deuxième partie de l'émission, Maud, on mettra une focale, si on peut dire, sur justement la mission conjugale, kérigme et catéchèse appliquée à la vie conjugale. Donc, est-ce qu'on peut reprendre, Maud, justement, la différence qui est très très claire dans ce texte de l'expérience du kérigme qui produit un certain fruit et qui, à ce moment-là, engage les nouveaux croyants dans un domaine de la catéchèse et de la vie chrétienne.
Voilà, alors le texte de la Pentecôte, il faut quand même rappeler, Alex, que c'est en fait un texte fondateur de l'Église, c'est-à-dire qu'il va nous donner comme un modèle de proclamation de la parole. Et en ce sens, Jean-Paul II lui-même nous a invités à renouveler l'ardeur évangélique des origines pour retrouver ce zèle qui a eu Pierre quand il s'est levé devant la foule et qu'il a commencé à proclamer l'annonce du Christ mort et ressuscité.
Oui. Jean-Paul II est très précis. Il faut raviver en nous l'élan des origines, donc des actes, avec ces textes fondateurs, en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de Paul. Malheur à moi, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Voilà. Et donc, c'est là où nous avons le cœur du cœur. Si nous n'accueillons pas les fondements de l'expérience pentecostale telle que Pierre l'a expérimentée, quelque part, on a énormément de difficultés à missionner.
Voilà, alors c'est pour apprendre à missionner, mais regardons ce que fait Pierre. Et en fait, il y a bien différents temps dans l'annonce et la proclamation de la bonne nouvelle. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle justement la proclamation du kérigme. Qu'est-ce que c'est le kérigme? C'est exactement ce que Pierre vient de proclamer, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu dans le monde, il est mort, ressuscité pour toi, pour nous, pour nous sauver. Et maintenant, il nous permet d'être sauvé et de sortir de toutes nos misères. Ouais, c'est le cœur de la foi. C'est-à-dire, c'est l'annonce de ce mouvement pascal qu'a vécu le Christ pour nous libérer.
Et on voit bien que la forme, il ne fait pas une conférence, Pierre. il exhorte, il adjure. Donc c'est une exhortation, c'est l'élément de la prédication qui vraiment essaie de convaincre d'une profonde conviction, sachant que la parole de Dieu, qu'on s'appuie sur la parole, elle pénètre profondément les cœurs. Et d'ailleurs, le synode très, très récent sur la parole de Dieu a redit ça. Attention, on ne fait pas dans les prédications des beaux commentaires savants sur la parole. Non, on s'appuie sur la parole pour, dans le sens de la prédication, dans le sens de pour que la parole de Dieu pénètre les cœurs. La clé de l'évangélisation, la première clé, c'est la prédication de l'annonce que Jésus est mort et ressuscité et qu'il nous a en cela libérés, il nous a ressuscité avec lui et c'est libérateur.
Voilà, et si on regarde bien ce que fait Pierre, Alex, c'est à la fois une prédication et à la fois c'est un témoignage. Nous en sommes témoins. Nous l'avons vu, le Christ ressuscité. Et c'est parce que nous l'avons vu que nous en rendons compte. Et c'est évidemment empli d'Esprit Saint qu'il arrive à proclamer cette parole. Donc le cœur de notre annonce, c'est un travail qu'il faut que nous apprenions à faire, parce que peu d'entre nous ont été formés à cette annonce. C'est être capable de rendre compte de notre foi, à la fois en annonçant ce que le Christ vient faire dans notre vie, dans la vie des autres, et à la fois en l'attestant, parce que ça nous est arrivé. Donc c'est à la fois une proclamation de ce que le Christ fait, et à la fois un témoignage de ce qu'il a fait pour moi, en s'appuyant à la fois sur la parole, à la fois sur mon expérience.
Alors la finalité donc du kérigme, c'est de conduire à cette expérience concrète d'une nouvelle naissance dans le Christ et l'Esprit Saint, tel que par exemple Jésus le propose à Nicodème, ou ce à quoi Saint-Pierre conduit Cornélius dans toute sa maison, dans le chapitre 10 des Actes. Et donc les différents objectifs, c'est pas d'abord une conversion intellectuelle, une adhésion intellectuelle, c'est que le cœur, l'âme soit touchée, transpercée. C'est de conduire à l'expérience de l'amour de Dieu. Voilà.
Et donc quand on fait cette expérience, après évidemment va venir le désir de changer de vie, la reconnaissance de ses péchés, mais et puis la mise en place de la vie de prière et tout ça qui va venir
là,
comme
venir après
une conséquence. Voilà. Mais ce qui est premier, c'est ce retournement de cœur. Ils hurlent d'entendre cela, ils hurlent le cœur transpercé. Quand nous parlons à des non-croyants, est-ce que nous avons en tête cette parole? Seigneur Esprit Saint, viens transpercer leur cœur. L'objectif, ce n'est pas de les convaincre, c'est de les transpercer.
Que l'Esprit Saint transperce leur cœur,
voilà,
au travers de la pauvreté de notre parole et de la prédication.
Voilà, pour qu'à ce moment-là, ils puissent envahir le cœur de ces personnes et leur donner de faire l'expérience de l'amour du Christ.
Et c'est cet bouleversement du cœur qui, à ce moment-là, engendre. Que devons-nous faire, disent les interlocuteurs. Et c'est là tout le processus. Mais je veux rencontrer, je veux mieux le découvrir, etc. Et là va venir le temps de la catéchèse, là va venir le temps des enseignements, de la vie de la communauté, etc., etc. Mais on ne peut pas introduire les personnes dans la catéchèse, dans la vie ecclésiale, dans la vie sacramentale, etc., tant que d'abord il n'y a pas une expérience de la conversion, de la conversion du cœur qui est vraiment retourné par cet amour.
Voilà, la catéchèse, elle, va travailler sur tout ce qui est croissance de la vie chrétienne. Croissance par l'accueil de la parole de Dieu, par le changement de notre vie. Donc on va à la fois approfondir ce qu'est la foi, les différentes dimensions de la foi, ce qu'est la vie spirituelle, ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est la vie de l'Église, et progressivement être intégré dans une vie fraternelle et une vie ecclésiale que nous allons découvrir.
Et le texte des Actes est très clair. Dans tout le domaine de la catéchèse et de la vie ecclésiale, il se montrait, dit dans les Actes, il se montrait, donc les disciples et les personnes qui avaient rejoint la communauté, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'effectivement, à ce moment-là, où il y a un lent travail de pétrissage de nos cœurs, de nos vies, qui nous mène à la conversion, à un changement de vie, etc. Mais c'est la deuxième étape. Si la première n'a pas été réalisée, mais la deuxième ne peut pas s'engager, ou en tout cas, elle ne porte pas du fruit.
Voilà.
Et c'est, voilà, on doit être interpellé par cette distinction pour mieux comprendre aussi à des moments, malgré toutes nos générosités, etc., nos échecs pastoraux, si je puis dire, ou l'échec de certains nombre d'activités apostoliques que nous menons, parce qu'effectivement, on est étonné qu'un certain nombre de personnes n'accueillent pas et ne soient pas transformées, parce que la première étape kérigmatique n'a pas été franchie. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de redécouvrir cet élément-là. Je me souviens, Maud, on était au grand congrès ecclésié à Lourdes, il y a quelques mois, où justement on redécouvrait la puissance de la parole, etc., etc. Mais on faisait également le constat, et d'ailleurs l'évêque qui présidait justement ce grand congrès disait que nous avions vraiment, en tant qu'église catholique en France, vraiment à redécouvrir la puissance de la première annonce, kérigmatique. La catéchèse, ça on sait très 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 bien faire. On est vraiment les champions de la catéchèse. Mais effectivement, pour l'expérience kérigmatique, on a beaucoup de travail de redécouverte de cette puissance kérigmatique et de la puissance de conviction pour que l'Esprit-Saint perce les cœurs.
Voilà, on doit apprendre en fait en Église à transmettre cette force du kérigme, ce qu'on appelle aussi la première annonce, c'est-à-dire annoncer le cœur même de la foi en faisant confiance à l'Esprit-Saint pour qu'il aille lui-même, je dirais, qu'il agisse à travers nos paroles pour toucher les cœurs. Et une fois que le cœur est touché, alors on peut commencer à travailler. C'est exactement la même chose que dans une relation amoureuse. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un intellectuellement, simplement parce qu'on nous l'a décrit, on a parlé de lui et qu'on nous a expliqué comme il était formidable. C'est bien parce qu'il y a d'abord une expérience du cœur qu'après on va apprendre à le connaître. Et c'est bien parce qu'on est tombé amoureux qu'ensuite on va commencer à avoir envie de le connaître.
Maud, on se retrouve dans un instant pour approfondir justement ce que tu as introduit, le kérigme conjugal et la catéchèse conjugale. A tout de suite. Voilà, Maud, pour approfondir ensemble la différence très importante pour la mission dans l'Église, la mission du couple, kérigme et catéchèse. On l'a vu, Maud, un peu dans l'absolu. Et là, on va essayer de focaliser un peu sur cette différence pour le couple.
Alors, on a appelé ça entre nous le kérigme conjugal, c'est-à-dire quel est le cœur de la foi que nos couples avons à annoncer à nos contemporains qui ne connaissent pas le Christ.
Voilà, et là, on a simplement, Maud, à s'appuyer sur les textes de la parole, de l'Évangile, à la fois dans l'Évangile de Jean, par exemple, ou dans les Actes, parce que pour vraiment montrer et illustrer que le Christ est l'unique sauveur de l'homme, mais aussi du couple. Voilà, on peut reprendre, citer un certain nombre de textes, de versets. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Pas sauveur, c'est un moment de quelques-uns. Le salut n'est en aucun autre. Il est capable de sauver définitivement, car c'est par son nom et par nul autre que l'homme fut guéri, que le couple, pourrait-on dire également, fut guéri. Car sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes et par lequel nous devons être sauvés.
Sauver, c'est quand même très fort, hein. Ça veut dire que vraiment tout couple, quelle que soit sa situation, peut être sauvé par le Christ. Voilà le cœur du kérigme. Le Christ a donné sa vie pour toi, pour ton couple, pour que tu puisses aimer ton conjoint et que ton conjoint puisse t'aimer, que vous soyez rassasiés de l'amour que le Christ va déverser dans vos cœurs.
Voilà, et c'est cette profonde conviction, si nous sommes sauvés, c'est que nous sommes dans une situation périlleuse, périlleuse. Et là aussi, la parole est claire. Elle est très claire. Paul nous le redit, tous, quels que soient les bons, les petits, les gros, les moyens, toutes les races, etc., tous, nous sommes soumis au péché qui nous entrave. C'est-à-dire que le péché nous enchaîne et nous avons besoin d'être libérés. Ce péché génère cette dureté de cœur qui est tellement terrible dans nos couples, qui mine nos couples, qui mine notre amour, qui nous empêche de vivre la promesse reçue aux origines, et ils ne feront qu'une seule chair. Alors ça va pour la nuit de noces, ça va pour les premiers temps, mais il est tellement difficile de le vivre dans la durée. Et justement, le Christ nous dit, eh bien justement, le péché vous entrave et le Christ vient vous libérer pour que vous goûtiez dans la durée, dans la croissance, cette béatitude conjugale, cette exultation de l'être, cette exultation de la communion, la paix entre vous. Voilà. Et qui sont tellement, Maud, difficilement accessibles simplement par nous-mêmes.
Voilà quelle est la bonne nouvelle que nous avons annoncée, qui est donc qui nous permet de transmettre cette joie extraordinaire qui fait qu'on a trouvé quel est celui qui nous aide à vivre notre amour et qui le dilate. Et ça, c'est une démarche extraordinaire. On reçoit par le Christ la délivrance de ce péché et cette liberté qui se dilate d'accéder au bonheur, ce bonheur dont nous avons tous soif et que nous recherchons tous.
Et cette épître Maud de Jacques qui dit « Qui a la liberté a le bonheur ». C'est ça qui est, et qui a la liberté, tu ne peux recevoir la liberté que recevant la délivrance de la part du Christ. Et la boucle est bouclée. Tous nos couples, nous aspirons profondément à un bonheur conjugal et familial. Et c'est le Christ qui a la clé de ce bonheur. Et c'est pour cela que nous avons à annoncer le cœur de ce kérigme conjugal.
Oui, c'est une tellement bonne nouvelle que ce serait tellement bizarre que nous le gardions pour nous. C'est un peu comme si on était au bord du Titanic et qu'on voit tous les couples qui partent pour un naufrage assuré. Et nous avons trouvé le canot de secours et nous ne l'indiquons à personne. Ce serait absurde. Bien sûr qu'on n'a qu'une envie, c'est de transmettre à tous cette joie de découvrir que le Christ est notre sauveur et rend possible nos aspirations les plus profondes. Et on est très 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 loin d'une image moralisante, pénible, et éteignante de la foi comme peut-être parfois nos contemporains ont.
Alors c'est pour cela que c'est pas une joie, c'est peut-être intéressant. Non, c'est une joie fondatrice pour les couples. Et c'est pour cela que nous avons à la proposer. On peut pas la garder pour nous-mêmes, c'est pas possible, je veux dire. Ça serait criminel. Et même en plus, ça serait pas naturel. Prenons un exemple, un peu pâle, mais pour expliquer. Voilà, quand notre mère, notre frère nous annonce une bonne nouvelle, une naissance, etc., la guérison d'une maladie, la réussite d'un examen, spontanément, nous allons partager, elle va nous partager, il va nous partager cette bonne nouvelle, nous allons faire de même. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de la garder pour nous tout seul. Ça serait complètement incongru, ce serait aberrant, c'est pas humain. Et donc, c'est donc fondamental que, accueillant cette bonne nouvelle, l'expérimentant, cette bonne nouvelle du kérigme conjugal, que nous puissions la partager.
Oui, la partager parce que nous l'avons déjà expérimentée pour nous et parce que, Alex, rappelons-nous ce que nous avons dit dans une précédente émission, parce que nous sommes aussi saisis dans nos tripes de compassion pour ceux qui n'ont pas la grâce de connaître cette bonne nouvelle. Donc c'est à la fois la compassion de celui qui ne connaît pas et à la fois l'expérience d'une immense joie qui nous pousse à dire, mais voilà, le chemin, il est par là. C'est tout simple.
Et même, il est surprenant à des moments dans l'Église de trouver des chrétiens qui disent, mais non, il ne faut pas tout dire, on va faire peur aux gens, etc. etc. Je me souviens, par exemple, toute une expérience qu'on a eue à un moment de développement, justement, d'une mission auprès des couples, etc. Puis des responsables, à un moment, disent, ah, non, il ne faut surtout pas parler du péché. Et pourquoi on ne va pas parler du péché? Mais non, ça va leur faire peur. Mais oui, mais alors, attendez, si le Christ est venu, qui ne nous libère pas du péché, à quoi il sert? C'est un type gentil, un prophète, un Gandhi, etc. etc. C'est très bien, mais le Christ est bien plus que ça. S'il n'est pas le libérateur du péché, si jamais il ne nous a pas libérés profondément, mais finalement, à quoi il sert? Et donc, c'est pour ça qu'il est fondamental de revenir au cœur de la foi. Il ne faut pas avoir peur de revenir au cœur de la foi. Vous voyez, par exemple, le succès des missions de nos frères évangéliques, qui ne sont pas du tout des feux de paille, le cœur de leur mission, c'est vraiment d'annoncer le cœur de la foi. Et regardez, ce sont les communautés chrétiennes dans le monde qui connaissent la plus forte croissance.
Oui, Jean-Paul II était d'ailleurs extraordinairement exigeant avec nous, puisqu'il disait que si on n'a pas cette capacité à annoncer le cœur de la foi et en quoi le Christ était ressuscité pour nous, peut-être était-ce parce que nous n'avions même pas vécu nous-mêmes cette libération du Christ dans nos vies. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. Si je ne suis pas capable d'annoncer le Christ sauveur, l'ai-je vraiment rencontré ? Ai-je vraiment fait le travail de relecture de ma vie pour voir quels étaient tous les endroits où le Christ m'avait sauvé?
Et là, tu cites vraiment Jean-Paul II, justement, dans son encyclique, justement, sur le rédempteur de l'homme et sur la mission de l'Église. C'est vraiment un élément fondamental que nous avons à nous poser. Voilà. Et donc, Maud, le processus d'évangélisation des couples, c'est de conduire à l'expérience d'abord de cette libération du péché par le Christ au cœur de l'amour conjugal. En raison de son amour pour nous, en raison de son action, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, le Christ nous a libérés et a libéré l'amour en nous comme si jamais il était encapsulé. Il a ouvert les vannes de cet amour et c'est en lui que nous pouvons puiser l'amour qui ne s'éteint pas.
Et c'est une bonne nouvelle qui porte du fruit dans les familles. Et on pourrait reprendre la parole de Dieu dans Luc quand il dit « C'est une mesure débordante qu'on vous versera dans votre manteau ». Et de fait, c'est une sorte de surabondance quand on ouvre son cœur à l'irruption de la grâce. Mais c'est vrai, Alex, il faut reconnaître qu'il y a un travail aussi de la foi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on rencontre le Christ, certes, on est bouleversé par une expérience vraiment d'amour avec lui, et ensuite c'est dans la foi et la construction patiente de notre nouvelle vie, de notre conversion, que le Seigneur va nous donner de vivre une sorte de débordement de l'amour, de la paix, de la joie, tous ces fruits de l'esprit dont on a déjà parlé.
Voilà. Ce kérigme conjugal, c'est aussi, on l'a déjà évoqué longuement lors d'une précédente émission, mais on l'évoque juste là, c'est tout l'évangile de Cana, en montrant qu'avec le Christ, le bon vin des noces, il est pour la fin. Alors que la logique du monde, bah, le bon vin est au début, et après, tôt ou tard, c'est la piquette, ou même, il n'y a plus que de la flotte. Voilà, c'est bien souligné, avec le Christ, vous allez être dans un amour en crescendo. C'est aussi mot de l'expérience des disciples d'Emmaüs.
Voilà, qui partaient l'air tout triste, l'air sombre, et qui ont, après avoir écouté les Écritures, écouté le Christ lui-même leur expliquer ce qu'il avait et ce qu'il était venu vivre au milieu de nous, ils eurent le cœur tout brûlant. Il disait, nous avions le cœur tout brûlant lorsqu'il nous parlait. C'est cette expérience vraiment de ce cœur qui est bouleversé par l'amour que nous voulons proposer à tous ceux qui nous entourent.
Voilà, et c'est pour cela que nous avons à annoncer qu'avec le Christ, si nous l'accueillons en plénitude, à ce moment-là, cela permet à des couples de briser la crainte de leur échec. C'est la crainte qui habite le cœur de tellement de couples de nos contemporains, la crainte de l'échec de leur vie conjugale, l'échec de leur vie familiale. Et en accueillant le Christ, cela brise cette crainte de l'échec, cela renforce la foi et ça nourrit l'amour à la fois pour Dieu et à la fois pour le conjoint. Il n'y a pas opposition, mais au contraire, il y a synergie. Et jusque dans le domaine si important pour nos contemporains, du domaine de la sexualité également, ça permet de libérer le sens de la sexualité. Voilà.
Et de retrouver justement tout ce qui, à l'intérieur de ma vie d'église, de petite vie communautaire familiale, tout ce qui peut à ce moment-là être renouvelé dans une vision d'une petite cellule d'église qui vit l'amour et qui se centre autour du Christ.
C'est pourquoi, Maud, il est essentiel que l'église, si elle veut évangéliser, fasse une révolution culturelle et fuit les rencontres, comme dit le fondateur des cellules d'évangélisation à Milan, donc fuir les rencontres ou de cercles de laïcs élitistes où ne circule pas la foi, mais la culture chrétienne, où ne se manifeste pas le désir ardent de rejoindre chaque cœur et de proposer le salut, où les chrétiens restent incapables de témoigner et de communiquer à d'autres la richesse reçue d'avoir rencontré le Sauveur.
Voilà, c'est un peu une révolution copernicienne qu'il nous propose, c'est-à-dire de tourner toute notre énergie vers l'annonce du cœur de la foi à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ.
Voilà, que le Seigneur vienne vous bénir dans toutes vos entreprises, notamment apostoliques, missionnaires, dans vos familles, dans vos églises, et que le Seigneur nous conduise en tout, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship